Nassira Belazin, bonjour.
Bonjour.
Dans le cadre de la programmation plurielle, au Merlan, vous proposez les 14 et 15 mars une pièce intitulée « Le cri », une chorégraphie où le mouvement mène à la transe et la transe à la libération. Au cri, vous dites d'ailleurs « Le cri, c'est quand l'ancrage ne cède pas ». Et vous dites aussi que c'est une idée simple, alors simple d'accord, mais peut-être est-ce que vous pourriez l'expliciter un petit peu ?
Alors d'abord j'aimerais juste réagir sur le mot « transe » parce que c'est pas exactement ça. En fait, à partir du moment où un mouvement se répète dans le corps, on l'a observé dans plusieurs danses traditionnelles, à partir du moment où il se répète, il gagne en vitesse, il gagne en amplitude, très souvent, et à un moment donné, effectivement, il peut basculer dans la transe. Mais c'est pas ce chemin-là, je dirais, qui m'intéressait. C'est plutôt, et j'en ai discuté avec des danseurs soufis, c'est plutôt l'idée que la conscience se hisse peu à peu, mais ne s'interrompt jamais. Et quant au corps, lui gagne en abandon, il se laisse faire au fur et à mesure, mais la conscience, elle, reste en place. La transe, c'est lorsque, d'un coup, la conscience cesse de tenir et que d'un coup on retourne au corps et qu'il y a un mouvement dans le corps un peu primaire comme ça qui s'installe. Donc c'est absolument pas ça qui m'intéressait, c'était plutôt l'idée de hisser le plus haut possible la relation entre le mental et le corps, la conscience et le corps. Donc le corps dans un état d'abandon extrême et le mental qui continue de tendre vers là où on est censé aller. Voilà, ensuite par rapport au cri. Pourquoi je dis l'ancrage, le cri, c'est lorsque l'ancrage ne cède pas. Ça, c'est venu d'une constatation, c'est-à-dire qu'à mesure que ce souffle montait dans le corps, comme j'avais l'image un peu d'une voile comme ça qui se gonfle par le souffle, on est obligé de s'enraciner plus fortement. Et en fait, au lieu de dire que le cri, c'est tout ce qui sort du corps, cette réflexion m'est venue de me dire que le cri, c'est la résistance qu'on oppose à ça. Et tant que cette résistance est en place, ça donne la sensation d'un cri.
Vos créations chorégraphiques s'articulent souvent autour du vide, du creux, de l'effacement. C'est ce vide et peut-être le vertige qu'il provoque, qui vous amène à rompre l'équilibre et donc à créer, à initier le mouvement.
Bah, vous me connaissez bien, dis donc. Je ne savais pas que vous me connaissiez aussi bien. Oui, c'est vrai que c'est tout à fait ça, l'effacement du corps. L'effacement, ce que je disais là encore en atelier, je leur disais qu'il fallait commencer par s'effacer un petit peu à ses propres yeux et aux yeux de l'autre. Pour réintégrer le corps à l'espace, pour faire que le corps fasse partie du tout. Et puis pourquoi le vide ? Parce que ben, je suis quelqu'un de très logique hein, en réalité. Il n'y a pas d'idée mystique là derrière, c'est juste que je me rends compte que ce qui apaise le plus, qui nourrit, qui semble comme ça nourrir l'être humain, en permanence, c'est d'être face à une chose qu'il peut contempler, c'est-à-dire à une chose ininterrompue et une chose qui ne lui donne pas non plus la sensation comme ça de remplir l'espace. Donc mes pièces, c'est trouver la structure minimale qui va permettre à ce vide de résonner, pour mettre peut-être le spectateur dans une relation effectivement d'une sorte de contemplation, une sorte de regard sur lui-même presque, de regard intérieur. C'est plus ça. Parce que positionner des idées sur un plateau, défendre des idées, construire des choses, tout ça c'est un vocabulaire qui m'est étranger. Et puis c'est pas mon idée de l'art. L'art ne vient pas s'ajouter à la réalité, mais pour moi il doit créer des creux, des vides justement dans cette réalité.
Plus on cherche à effacer le corps, plus il se révèle dans le mouvement. Ça sonne comme un message d'espoir pour toutes les femmes dans le monde qu'on contraint souvent à l'effacement, sur lesquelles on jette un voile. Votre cri, c'est un cri de guerre, un cri de résistance?
Les questions sont tellement bien tournées qu'en fait elles se suffisent à elles-mêmes en quelque sorte. C'est pour ça que j'ai un peu de mal.
C'est pas un compliment.
J'ai du mal à rebondir. Non, mais elles sont assez pleines en fait.
Est-ce que c'est un cri de guerre?
Non, c'est pas un cri de guerre.
De résistance?
Oui, il y a de la résistance. Oui.
D'espoir?
De libération. Voilà, mais non, c'est pas un cri de guerre dans le sens où c'est pas. Et puis vous disiez ces femmes sur lesquelles on jette un voile, etc. Mais après moi, mon idée de la liberté, on en parlait là encore avec les stagiaires aussi, elle est un peu à l'inverse de l'idée commune. Voilà, je prône vraiment une liberté intérieure. Donc pour moi, quelqu'un qui est en prison peut être libre si on voulait aller loin dans l'image. Après, c'est pas le but d'enfermer les gens non plus pour les obliger à se libérer intérieurement. Mais la contrainte extérieure, et d'ailleurs je travaille à partir de contraintes très fortes dans mon travail pour pouvoir arriver à cette liberté intérieure. Parce que c'est tellement galvaudé et tellement devenu pour le danseur en plus, surtout pour le danseur, que l'idée de liberté, c'est la possibilité de faire ce qu'on veut, que je sais pas travailler dans ce... Ça pour moi, c'est le vrai vide. Et je ne sais pas travailler dans ça. Alors que le vide que je construis, c'est un vide intérieur qui est en réalité une résonance très forte, qui est loin d'être du vide. Mais donc voilà, le cri, c'est la capacité en un laps de temps, sur un plateau face à un public, à s'enraciner profondément, à partir de soi, mais du très fond, et puis arriver à une sorte, laisser remonter par un seul mouvement, ça s'imposait, que ce soit un seul mouvement, laisser remonter cette espèce de d'élan intérieur, d'envol comme ça, je donne souvent l'image à la lumière et au son et au corps, de partir de l'infiniment petit vers l'infiniment grand, donc une espèce d'ouverture comme ça. Donc c'est pour ça que cette pièce agit presque comme une catharsis pour nous surtout, mais enfin, et aussi pour le public.
Une de vos précédentes créations, intitulée Paris-Alger, vous l'avez, je crois, créée en Algérie, ce pays qui est le vôtre, en tout cas auquel vous êtes très attaché, mais dont vous avez aussi dit qu'il ne fait pas partie du monde. Pourquoi ?
C'est pas forcément une mauvaise critique hein, de dire qu'il fait pas partie du monde, hein, surtout à l'heure actuelle. Je dirais que c'est presque une chance. Mais c'est la sensation très claire que j'ai eue en posant les pieds là-bas en 2001. Bon, l'Algérie, je suis née là-bas, j'y suis allée régulièrement, mais c'est vrai que pendant les 10 années de terrorisme, moi je suis pas allée pendant 8 ans, on va dire, pendant 8 ans, j'y suis pas retournée. Et puis il y a l'Algérie. Avant ces années noires où j'y allais essentiellement pour être en famille, où j'ai passé beaucoup de temps. Et puis en 2001, j'y retourne et j'y retourne pour le travail. Donc c'était autre chose déjà, j'étais dans une autre posture. Et cette sensation très claire que ce peuple venait de traverser une chose qui faisait qu'il s'était en quelque sorte coupé du monde. Les gens étaient là, les bras ballants, aucune projection vers l'avenir, aucune... plus envie de travailler, plus rien, une sorte de désolation comme ça, très forte, qui, je tiens à le dire, ça va beaucoup mieux aujourd'hui, presque 10 ans plus tard en Algérie, mais voilà, c'est un état de fait. Je suis arrivée et j'ai eu la sensation d'être dans un autre monde, ou dans un pays qui n'avait plus aucune relation, ni d'ouverture, ni de communication avec l'extérieur.
Quelles sont pour vous aujourd'hui les grandes priorités dans le combat des femmes dans le monde pour l'égalité et puis pour la mixité? Qu'est-ce qui est aujourd'hui urgent, important de faire ou de dire?
Je ne sais pas si c'est juste de faire ce genre de lien, mais quand vous me dites ça, moi je pense au fait à, par exemple, certaines structures qui nous demandent de sensibiliser le public à la danse contemporaine. Et je dis toujours que c'est ridicule de chercher à le sensibiliser à la danse contemporaine. Il faut chercher à éveiller sa curiosité, chercher à le rendre plus curieux vis-à-vis de tous les arts. Et cette question par rapport à la femme me semble aussi réduite. C'est-à-dire que, à partir du moment où on ne se bat pas pour les droits et la liberté de l'être humain en général, j'ai envie de dire que le combat de la femme, il est en quelque sorte un peu condamné. Bien qu'effectivement, on ne puisse pas comparer, et puis qu'il y a certains pays où, en tout cas, c'est beaucoup plus flagrant, où les femmes n'ont absolument pas les mêmes libertés que les hommes. Mais je dirais que ça, c'est secondaire. Ces types de libertés pour lesquelles on se bat, elles sont vraiment secondaires. Pour moi, elles découlent d'abord d'un rapport égalitaire qu'on va établir à la base entre l'homme et la femme, en positionnant l'homme et la femme comme, avant tout, l'être humain et se battre pour ces droits-là. Ça me rappelle aussi une époque où j'étais à la fac, où on parlait de la littérature féminine. Et j'ai jamais su ce que ça voulait dire d'être une femme et d'écrire pour les femmes. Et je pense que cette distinction-là, elle n'est pas forcément bonne. Moi, je me bats pour les libertés d'un être humain, alors que je suis une femme arabe, issue d'un milieu où on ne m'a absolument pas autorisée à faire de la danse, où j'ai dû me battre pour obtenir cette liberté dans laquelle, vers laquelle je continue de tendre. Mais je ne me suis pas battue en tant que femme, je me suis battue en tant qu'être humain. C'est-à-dire que j'ai vraiment été soucieuse de ça. C'est-à-dire que ce n'était pas une femme qui voulait être plus libre, c'était arriver à une sorte de liberté objective, en quelque sorte, qui est inhérente à tout être humain. Et je pense que le fait de reformuler les choses à partir de cette donnée première qui est, avant tout, on se bat pour les droits de l'être humain, pour ses libertés, j'ai l'impression que le combat me semble beaucoup moins vain. Parce que, oui, en Algérie, les hommes ont le droit d'être dehors, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, et les femmes sont peut-être apparemment enfermées à la maison, etc. Mais pour moi, les hommes sont loin d'être libres. Ils sont quasiment aussi enfermés, voire même plus que les femmes. Ils sont enfermés dans leur image de l'homme qui a plus de, soi-disant, plus de droits. Donc, pour moi, la lutte, elle est plus profonde. La résistance doit être... résistance et la lutte, s'il y a lutte, doit être plus profonde et à un endroit beaucoup plus commun que... Je suis désolée de ne pas répondre à la question en disant que je parle au nom des femmes, mais vraiment, ça ne m'intéresse pas.
En attendant, vous serez sûrement intéressé d'aller voir le CRI. C'est samedi 14 mars à 19h30 et dimanche 15 mars à 18h. C'est à la Friche Label de Maine, programmation plurielle du Merlan. Renseignements et réservations 04 91 11 19 20 et les infos sur le site www.merlan.org. Merci Nasser Abelhaza.
Merci à vous.